Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai ouvert le chaudron et voici ce que j'ai entendu.
Il détourne la rivière, là-haut, là-haut. Il se moque de nos misères, là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre, là-haut, là-haut. Il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord, il nous faut parler. Assez, gringo, nos terres sont les plus fertiles. C'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos bars, lorsque nous pêchions dans le lac. Heureux, heureux, ils veulent construire un barrage. Là-haut, là-haut, c'est la vallée qu'ils saccagent. Là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous devons les empêcher. Là-haut, détruire nos foyers, si beau, si beau. Tous les hommes vont s'armer, toutes les femmes vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau. Des contrats, c'est tout, qui leur donne tous les droits sur nous, ils veulent nous rayer du temps et puis du monde des vivants pour de l'argent, l'argent. Que ferions-nous dans leur ville, tombeau, tombeau, comme des tigres qu'on exile. C'est pourquoi jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister. Polo, 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 de l'eau, de l'eau.
Étonnant, hein, c'est Henri Salvador qui a écrit et composé cette chanson. Comme vous le savez sans doute, notre corps contient environ 60% d'eau et même chez le bébé, ça atteindrait 78%. Et chaque jour, le corps élimine entre 2 et 2 litres et demi d'eau. Il faut donc remplacer ce volume par la boisson et l'alimentation pour éviter la déshydratation. Aucun organisme vivant ne peut se passer d'eau pour croître, survivre et se reproduire. C'est un peu comme la sécurité sociale. Nous avons besoin d'une sécurité hydrique. Nous souffrons fréquemment d'amnésie dans notre vie quotidienne. Le geste d'ouvrir et peut-être mal refermer un robinet d'eau est tellement banal qu'on pourrait oublier que cette ressource naturelle est ô combien nécessaire et précieuse. Et d'ailleurs, l'actualité récente nous envoie quand même quelques signaux. Depuis juin, l'île de Capri en Italie est interdite aux touristes. En cause, les réservoirs d'eau qui sont en train de s'épuiser. En France aussi, des régions ont été très limites au niveau approvisionnement. Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes vivent sans accès à l'eau salubre. L'impact est particulièrement fort sur les femmes dans les pays dits en voie de développement, car c'est à elles qu'incombe la corvée d'eau. Sur la Terre, l'eau douce est abondante, mais pas très également répartie sur les différentes régions du globe. Avec l'accroissement de la population, les besoins en eau vont croître et se fracasser sans doute aussi au changement climatique. 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des bassins hydrologiques internationaux partagés par plusieurs pays. Quand on voit poindre certains nationalismes ou des conflits déjà existants, je vous laisse deviner les problématiques. 1,7 milliard de personnes vivent dans des régions où les nappes souterraines sont surexploitées. En 2023, le journal Le Monde révélait que la moitié de la population mondiale est confrontée au stress hydrique pendant au moins un mois par an. C'est quoi le stress hydrique ? Eh bien, c'est quand la demande d'eau dépasse les ressources en eau disponibles. Bon, après ce discours un peu généraliste, je vais vous parler d'un petit livre intitulé « Eau, état d'urgence » d'Anne Lestrat. Anne Lestrat est née en 68 à Lorient. Elle est docteur en géopolitique. Elle a été adjointe à la mairie de Paris où elle était chargée de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des canaux. Elle a travaillé sur la remunicipalisation des services de l'eau. En effet, aujourd'hui, l'eau de Paris est en régie municipale. Elle a également participé à plusieurs programmes et recherches sur ce sujet. Son livre est sorti en 2023 au Seuil, dans la collection « Alerter, informer, questionner ». C'est une scientifique et donc ses informations sont étayées, les explications sont claires et très accessibles. En plus, le livre ne coûte pas très cher, 4,50 €. Elle informe donc et décrit, par exemple, ce que j'ai découvert, différents types de sécheresses. Sécheresses météorologiques, hydrologiques, agricoles ou agronomiques. Elle rappelle, bon, ce qu'on sait déjà, hein, que l'activité humaine joue un rôle important dans l'amplification de ces sécheresses, à tel point qu'on parle aujourd'hui de sécheresses anthropiques. Elle évoque également des sécheresses océaniques. En fait, j'aurais presque envie de vous lire tout le livre en entier, mais bon, car vraiment, tout ce qui est écrit est vraiment important. Je vais donc essayer de me restreindre et je vais quand même vous lire un petit extrait où elle tacle certains a priori. Avec les risques accrus de sécheresse, une petite musique se fait entendre sur les volumes d'eau importants qui vont se perdre dans la mer, plus loin. Ce genre de propos traduit une méconnaissance totale des cycles hydrologiques. Il néglige les multiples rétroactions, tant chimiques, physiques que biologiques et écologiques, entre les cycles d'eau douce et les milieux océaniques. Il fait fi des apports d'eau douce à la mer par les nappes et les rivières et leurs flux de matière associés, des impacts de prélèvement sur les écosystèmes marins, de l'apport des eaux douces aux estuaires, qui sont des zones de rencontre entre l'eau de mer et l'eau des rivières. Venant des représentants du monde agricole, cette ignorance des cycles de l'eau est consternante quand on sait que ces cycles sont partie intégrante de leur activité. Elle développe aussi la notion de prélèvement et de consommation. Par exemple, l'agriculture consomme beaucoup d'eau, mais le prélèvement se transforme en produit agricole. Autre exemple, le nucléaire prélève énormément d'eau, mais en consomme peu. 98% sont restitués. Bon, cependant, je vais quand même faire un petit bémol sur la question, car selon Reporter, les centrales nucléaires ont effectivement besoin de beaucoup d'eau, et on a donc, à une époque, construit des barrages pour satisfaire ces besoins. Il y a même eu, entre 76 et 80, au même moment de la lutte contre l'existence du camp militaire du Larzac, une véritable mobilisation des paysans de Langogne contre une retenue de 190 millions de mètres cubes à nos sacs. Et pour finir cette parenthèse avec le changement climatique, les rivières ont un débit plus faible et donc se réchauffent plus vite. Rien de bien rassurant par rapport aux centrales nucléaires. Pour revenir au petit livre d'Anne Lestrade, je ne pourrais pas négliger le chapitre sur les méga-bassines. Cela s'inscrit dans une logique de l'offre par la recherche de ressources additionnelles grâce au recours d'équipements techniques dont le but n'est pas l'adaptation à la disponibilité de la ressource de plus en plus variable, mais l'augmentation de sa disponibilité pour maintenir une trajectoire de croissance. Les chercheurs nomment ce phénomène « fixe hydrosociale » en référence aux drogues. L'objectif est de réparer un dysfonctionnement, le manque d'eau, en immobilisant du capital dans une infrastructure au lieu d'investir pour soutenir la transition vers des pratiques moins gourmandes en eau. Ce principe est l'un des motifs d'opposition à ces infrastructures rangées selon les scientifiques dans la catégorie de la maladaptation. En effet, cette solution technique est non seulement inadaptée aux profonds bouleversements climatiques et hydrologiques à l'œuvre sur le territoire, mais elle répond à un besoin de court terme face à une pénurie d'eau qui ne permet pas de rechercher une autre solution plus soutenable et aggrave le risque que l'équipement technique est supposé résoudre. Cette infrastructure crée aussi un effet rebond qui incite à l'utiliser afin de rentabiliser son investissement en empêchant de penser à des alternatives. Voilà, donc elle ne mâche pas vraiment ses mots. Et pour conclure, parce que je ne vais quand même pas tout vous lire à le livre, mais quand même, voici ce qu'elle dit pour conclure ce. C'est un petit livre, hein, il fait une cinquantaine de pages, hein, c'est très très lisible. Les solutions pour répondre à la crise de l'eau et de la biodiversité sont donc connues. Elles sont validées scientifiquement et empiriquement. Si elles ne sont pas mises en œuvre, c'est qu'elles dérangent l'ordre économique dominant. Elles ne sont pas compatibles avec la logique de compétition et de concentration capitaliste, avec le marché mondial de l'agroalimentaire, avec les contraintes que font peser les multinationales agro-industrielles sur les pratiques agricoles, avec les choix de production actuels. Voilà, au état d'urgence, Anne Lestrade. Enfin, pour finir sur l'eau, je vais vous lire un autre petit écrit, je dirais presque un discours. Alors, il s'agit d'une hydrogéologue. Voilà. Et c'est cette personne s'appelle Florence Hubet et elle est directrice de recherche au CNRS. Et voici ce qu'elle dit, ce qui va compléter ce que dit Anne Lestrade. L'hydrogéologie est une science qui s'intéresse à l'eau dans les roches. Une science qui porte sur des choses qu'on ne voit pas et qu'on mesure mal. D'ordinaire, elle ne soulève pas les foules. Et pourtant, récemment, beaucoup de gens se sont intéressés à l'eau, à la compréhension de son cycle, dans l'air, le sol, le sous-sol, jusqu'à la mer, que ce soit pour comprendre les pollutions qui touchent les nappes et l'eau du robinet. L'assèchement aussi de nombreux cours d'eau ou les conséquences d'aménagements contestés comme les méga-bassines. Et tant mieux, car l'eau est un bien commun, ce qui implique un partage équitable entre humains et non humains dans la durée et une concertation sur ses usages. L'hydrogéologie s'intéresse donc à cette partie peu visible et potentiellement privatisée de ce bien commun. Elle essaye de comprendre et de régler des problèmes liés à l'excès ou la pénurie d'eau, ou encore à sa pollution. En France, le suivi de l'eau souterraine est assuré par le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, qui, comme son nom l'indique, est associé à l'exploitation des ressources. L'eau souterraine circule à travers les pores du sol, faisant parfois fi de la gravité, puisque du fait de la pression, elle peut gravir les dénivelés et parcourir des kilomètres entre le lieu où elle s'est infiltrée et celui où elle rejaillit à la surface, créant des sources. La circulation de cette eau dépend des propriétés géologiques du sous-sol, mais elle est modifiée par les activités humaines qui, 1. Réduisent la quantité d'eau de pluie, s'infiltrant dans les sols jusqu'aux nappes, par l'artificialisation, le tassement des sols, le remembrement, 2. Accélère et détourne les écoulements via le drainage agricole ou l'approfondissement des rivières. 3 prélèvent une partie de cette ressource. Ces prélèvements modifient à la fois les volumes d'eau et les écoulements en altérant le sens de circulation et la pérennité des sources, aggravant les risques d'assec. Les assecs, ce sont les rivières, les étangs vides. Or, les prélèvements en nappe sont très nombreux, pas moins de 56 000 en France, pour un volume estimé à 6 milliards de mètres cubes par an, soit 64% des prélèvements pour l'eau potable et 40% des prélèvements agricoles. Mais il ne s'agit que d'estimations fondées sur des déclarations d'impôts. On ne connaît pas bien la quantité d'eau réellement prélevée et moins encore sa répartition saisonnière, qui est pourtant cruciale, notamment en été, en ce qui concerne l'apport des nappes aux rivières. Alors qu'elle devait recevoir toute notre attention, l'eau souterraine est finalement mal connue. Il n'existe que 2000 points de survie journaliers, un nombre qui ne cesse de baisser, même lorsque des projets impactants comme des bassines dédiées à l'irrigation agricole sont planifiés. Il n'y a pas d'effort pour compléter le réseau d'observation des nappes et des rivières adjacentes. Or, la combinaison des pressions humaines, prélèvements, modifications de l'occupation des sols, changements climatiques, pollution, est extrêmement défavorable aux eaux souterraines. Plusieurs études montrent que les volumes des nappes diminuent dans de nombreuses régions du monde, y compris en Europe. Les risques d'assec s'accompagnent de la disparition des zones humides, de forêts alluviales ne pouvant plus accéder à l'eau par capillarité. Les vides laissés par l'eau peuvent se compacter et entraîner des affaissements du sol de plusieurs centimètres par an. La réduction des apports en eau douce à la mer, considérée comme des pertes par des personnes mal informées, entraîne un appauvrissement significatif des zones marines. Les nappes protègent l'eau. Elles évitent l'évaporation et les contaminations et maintiennent une température fraîche. Ainsi, pomper cette eau pour l'exposer en surface pendant des mois, comme le font les mégabassines, peut sembler incongru. Cette substitution des prélèvements d'été par les prélèvements d'hiver permet surtout de poursuivre une politique de l'offre et de ne pas engager des changements structurels nécessaires à la préservation de la ressource, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Cela conduit, on entend encore ce mot-là, à une maladaptation. Pour assurer un partage équitable et durable de cette ressource vitale, l'hydrogéologie peut, si elle dispose de suffisamment d'observations, aider à anticiper les conséquences de nos pratiques actuelles et à venir. Mais seule la société peut se mobiliser pour éviter l'accaparement et la dégradation de cette ressource commune. Bon, c'était un petit peu long, mais j'avais vraiment envie de vous lire tout ça parce qu'on en apprend quand même beaucoup sur l'eau et cette eau souterraine qui nous est quand même éminemment précieuse. Bon, pour finir, allez, un peu de légèreté et un peu d'humour, je vais vous lire quelque chose que j'ai piqué dans l'Empaillé. C'est une drôle d'histoire. Au moment même où l'humanité fut prête à coloniser l'univers, un énorme astéroïde se dirigea vers la Terre et la menaça tout entière. On changea à la hâte la liste des futurs colons devant embarquer dans l'immense vaisseau cargo qui s'apprêtait à partir. Les laissés pour compte et les repris de justice dont on avait voulu se débarrasser durent céder leur place aux plus aisés et aux plus influents. Du moins, ceux qui préféraient la vie même rude au luxe. Les autres mirent fin à leur jour dans des orgies excentriques, luxuriantes et raffinées. C'est après le décollage qu'on apprit que l'immense météore n'était qu'une maquette en carton-pâte confectionnée par des activistes et que le nom de code de leur intervention était « Opération Bon Débarras ». Allez, à bientôt !